Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon carnet de voyage. Je me présente, Yana Delière, sommelière et passionnée de voyages viticoles. Dans cette série de 3 épisodes, je vous embarque avec moi à la découverte d'un vignoble incontournable d'Espagne et même du monde, la Ribera del Duero. Dans ce podcast, je vous ouvre les pages de mon carnet de voyage. Mon objectif, me plonger au cœur de cette région, découvrir ses paysages, fouler les sols de ses vignes, rencontrer les vignerons et déguster un maximum de cuvées pour toujours mieux comprendre les vins de la Ribera del Duero. Épisode 1, la Ribera del Duero, un terroir plein de surprises. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre pour notre première escale. Je vais vous raconter comment ce terroir complexe a mis à mal une idée reçue que j'entends régulièrement, celle que le vignoble de la Ribera del Duero est situé sur une plaine où le climat est toujours égal et clément. Eh bien, je peux déjà vous l'assurer, cette idée est à des années-lumière de la réalité du terrain. Un paysage façonné par l'eau et la montagne. Quand on imagine la Ribera del Duero, certains pensent souvent à une vaste plaine, sans relief. Eh bien, détrompez-vous, j'ai été accueillie par un paysage de montagnes, de vastes plateaux et de vallées. L'appellation s'étend sur 115 km de long du fleuve du Duero, dans l'une des parties les plus en altitude de son parcours. Oui, même les vignes les plus « basses » entre guillemets sont déjà à 720 mètres d'altitude. Et certaines grimpent même à plus de 1000 mètres. Ces vignes flirtent avec les nuages. Dès mon arrivée, j'observe un paysage marqué par une large vallée sinueuse, creusée par le Duero et bordée par des montagnes en forme de plateau. J'ai appris plus tard qu'elle portait le nom de Paramos. Il est intéressant de constater, sur place, que ce relief accidenté ne fait pas que sculpter le paysage. Il a aussi un impact climatique majeur. Il isole l'appellation de l'influence de l'océan Atlantique. Alors, je me suis demandé, mais d'où viennent ces montagnes? Car l'origine géologique d'une région, on le sait, impacte directement le vin. Eh bien, leur histoire est fascinante et elle s'inscrit dans le grand phénomène de la tectonique des plaques. Ce choc titanesque entre les plaques euro-asiatiques et la plaque africaine a donné naissance, il y a des millions d'années, au massif impressionnant qu'on connaît des Alpes et de la cordillère bétique située au sud du pays. Ce mouvement a continué formant un vaste plateau au milieu de l'Espagne, appelé la Maceta ibérique. Ce plateau s'est progressivement incliné vers l'ouest, toujours sous l'effet du mouvement des plaques. Cette inclinaison de la Maceta ibérique explique pourquoi le Duero prend sa source au centre du pays et le traverse plein ouest jusqu'à l'océan Atlantique. Ah, ce fameux Duero, ce fleuve qui a donné le nom à la région viticole. Pour mieux comprendre les vins de la région, c'est donc incontournable, il faut revenir sur l'origine de son fleuve. Tout commence il y a 2,5 millions d'années, quand le Duero a commencé à se frayer un chemin parmi les montagnes formées lors de la tectonique des plaques. Au fil du temps, l'eau a progressivement formé son lit en érodant la roche, faisant ainsi apparaître une multitude de couches de roches correspondant à des aires géologiques différentes. C'est précisément cette érosion qui explique aujourd'hui la complexité des sols qu'offre le vignoble de la Ribera del Duero. En tout, on peut y référencer une trentaine de types de sols différents. Ils sont composés tantôt de couches de sable, de limon, d'argile, de marne, de calcaire ou de conglomérat. Mais ce n'est pas tout, cette érosion a également laissé la place à des sortes de buttes au sommet plat qui portent le nom de cerros. Sur ces cerros, beaucoup de places fortes et de châteaux ont été construits durant le Moyen-Âge. Des constructions témoignant de l'histoire de la région dont nous parlerons plus en détail dans le 3e épisode. Un climat extrême et surprenant. À vol d'oiseau, l'océan Atlantique n'est qu'à un saut. Mais la cordillère Cantabrique, au nord de l'appellation, forme une véritable barrière naturelle empêchant son influence de pénétrer les terres de la Ribera del Duero. Résultat, un climat continental très marqué que j'ai constaté dès mon arrivée en plein été par une température caniculaire de près de 40 degrés. Les étés peuvent être donc très chauds et très secs. Les hivers, eux, sont très froids, avec des températures pouvant descendre à moins 20 degrés. Ces deux saisons très marquées ne laissent que peu de place au printemps et à l'automne. Et à plus de 700 mètres d'altitude, même si les journées d'été sont chaudes, les nuits restent fraîches. C'est cette amplitude thermique pouvant atteindre 20 degrés entre le jour et la nuit qui est capitale dans la qualité des vins de la Ribera del Duero. Elle permet une maturation progressive des raisins, essentielle pour la complexité aromatique des vins. L'acidité est préservée ainsi que la finesse du fruit. Le Duero, mais aussi ses nombreux affluents, joue aussi un rôle clé dans la régulation de ce climat. Il crée des micro-terroirs, renforçant ainsi les nuances de terroir du vignoble de la Ribera del Duero. Les défis climatiques, gelée, grêle et réchauffement. Au gré de mes rencontres, j'ai pu constater que ce climat d'altitude a aussi ses revers. Le principal risque ici, ce sont les gelées printanières. Les vignerons que j'ai rencontrés se souviennent encore du millésime 2017. Les températures ont chuté à moins 10 degrés fin avril, une catastrophe. Et comme partout, le changement climatique se fait sentir. La date des vendanges avance d'année en année. Pour vous donner une idée, il y a 10 ans, la norme était de vendanger fin octobre. Pour 2025, on s'attend déjà à rentrer les premiers raisins début septembre. Autre impact qui marque le millésime 2025, la pluviométrie. La région reçoit en moyenne environ 400 mm de pluie par an. Ce chiffre moyen, plutôt bas, limite les risques de maladies et permet aux vignerons de travailler aisément leurs vignes en agriculture biologique. Petit chiffre au passage, la DO compte presque 24% de son vignoble certifié en agriculture biologique. Mais voilà, avec le changement climatique, en 2025, la pluviométrie moyenne de l'année était déjà presque atteinte début juillet. L'augmentation des fortes pluies au printemps a favorisé les maladies, demandant plus de traitements dans les vignes. Et autre phénomène de plus en plus récurrent, les orages de grêle. J'ai pu voir des photos de dégâts causés par la grêle juste quelques jours avant mon arrivée. Une partie de la récolte 2025 est donc déjà totalement détruite. Durant mon séjour dans la région, ce qui m'a marqué, question météo, c'est son hétérogénéité d'une zone à l'autre de l'appellation et aussi d'un moment à l'autre de la journée. Passé 35 degrés, des pluies torrentielles, de nouveau du soleil, c'est ça aussi la Ribera del Duero. Dégustation comparative, comprendre l'effet millésime. Le climat est si différent chaque année qu'il se retrouve dans le vin, dans ce que l'on appelle l'effet millésime. Et cet impact, comment mieux le comprendre qu'en le dégustant? Pour saisir ces nuances, je vous invite donc à une petite dégustation comparative. Prenez deux vins de la Ribera del Duero, même cuvée, même domaine, même style, mais issus de deux millésimes différents, idéalement proches et contrastés à la fois. Pour cette dégustation, j'ai donc choisi deux vins à la base de Tempranillo de la Bodega Conde San Cristobal. Deux cuvées Crianza, un de 2022 et l'autre de 2021. Ces deux cuvées sont élaborées de la même manière, la seule différence étant le millésime. Elles sont classées Crianza, ce qui signifie qu'elles ont chacune entre 12 et 14 mois d'élevage en barrique de chêne français. Les raisins proviennent, pour les deux vins, de 46 parcelles différentes. Ce sont des cuvées très représentatives des vins produits dans la Ribera del Duero. Commençons donc par le millésime 2022. L'année a été la plus chaude de ces dernières années, mais aussi l'une des plus sèches, avec moins de 300 mm de pluie. Les températures ont été élevées dès le début de la saison, même la nuit. En résumé, 2022 est une année très solaire. La météo pour 2021 a été radicalement différente. Elle a été plus fraîche et pluvieuse, avec environ 450 mm de pluie, bien répartis sur l'année. 2021 est une année plus nuancée, qui offre donc un équilibre et une buvabilité très différente au millésime 2022. 2021 offre des tanins plus souples quand 2022 demande encore quelques années de patience pour que ces tanins fermes et encore très astringents s'attendrissent. Les aromatiques aussi sont très différentes entre les deux cuvées. Elles sont plus marquées par des notes de fruits très mûres en 2022, alors que des touches plus fraîches et végétales s'expriment dans le 2021. Le 2021 a un potentiel de garde important, mais il est bien plus agréable maintenant que le 2022. L'influence des sols, une autre dimension de terroir. Durant mon voyage, j'ai eu la chance de faire une masterclass avec Almudena Alberca, première femme Master of Wine d'Espagne. Lors de sa présentation, on a pu aller dans les détails sur la compréhension de la diversité des vins de la Ribera del Duero. On a passé un moment à parler des sols et de leurs impacts sur les styles de vins produits dans la région. Après ces échanges, une série de dégustations et des visites dans les vignes, je pense que je commence à saisir un peu les différents sols de la région et leur expression dans les vins. Donc au-delà du climat et de l'altitude, ce qui vient s'ajouter au facteur de complexité des vins, c'est l'incroyable diversité des sols. En résumé, on trouve ici deux grandes compositions, les calcaires et les argiles. Le calcaire apporte finesse et élégance, tandis que l'argile confère profondeur et richesse. Mais leur état, sablonneux ou caillouteux, et leur profondeur a aussi un impact sur la vigne et sur le vin. Les sols calcaires très perméables poussent la vigne à développer un réseau racinaire profond. Les sols d'argile retiennent l'eau et la diffusent progressivement. Certains sols argileux peuvent également être riches en fer, on les reconnaît tout de suite dans le paysage avec leur sol rouge caractéristique. Dans les vins aussi, ils sont reconnaissables, ils ont une structure et une touche de minéralité métallique s'illustrant parfois par une sensation sanguine. Les zones très sablonneuses, reconnaissables par la présence de pins dans l'environnement, sont des sols très légers. Ils donnent au vin une dimension plus variétale, mettant en avant le fruit du cépage. Et j'ai découvert une particularité fascinante de ce dernier terroir. Il est régulièrement exempt de phylloxéra. Ce ravageur ne peut pas s'y établir, résultat, on y trouve de très vieilles vignes, parfois centenaires, témoins d'un passé pré-phylloxérique. À l'opposé de ce sable, on trouve des parcelles plus caillouteuses, des fois des graves sur d'anciens lits de rivière. Ces sols donneront des expressions plus crayeuses, avec une minéralité distincte en aromatique comme en bouche. Cette grande diversité de sols et de climats donne un potentiel de diversité sans pareil. Si la tendance jusqu'à nos jours a été d'assembler pour lisser ces aspérités, la nouvelle tendance est de mettre en lumière justement ces différences. Une vision très différente de la norme que j'ai pu découvrir en compagnie de Noelia Callejo du domaine Félix Callejo. Ensemble, nous avons fait le tour de presque toutes les parcelles du domaine pour étudier aussi bien les sols que les expositions, que les altitudes ou encore que l'environnement qui entoure les vignes des différentes parcelles. Ces vins sont ensuite séparés en différentes cuvées, ce qui permet de découvrir et de déguster les caractéristiques de chaque terroir. Dégustation comparative, l'impact des sols. Pour illustrer concrètement ces expressions parcellaires, je vous propose une nouvelle dégustation comparative. Cette fois-ci entre deux cuvées de parcelles différentes, mais issues du même millésime. Car on vient de le voir, le millésime a une influence considérable sur le style des vins. J'ai donc choisi deux vins du millésime 2021 provenant de parcelles aux caractéristiques radicalement différentes. Le premier vin est la cuvée Félix Callejo 2021 de la Bodega y Viñedo Félix Callejo. Il s'agit d'un domaine familial de Sotillo de la Ribera dans la province de Burgos. Les deux parcelles qui composent cette cuvée sont en altitude autour de 900 mètres. Les vignes sont plantées sur des sols caillouteux et très riches en calcaire. Ce vin est fermenté avec des levures naturelles, élevées 10 mois en demi-muit et en foudre. C'est presque un 100% Tempranillo puisqu'il ne compte que 3% de grenache dans l'assemblage. Le deuxième vin, c'est la cuvée La Verticale 2021 de la Bodega Valdemoras. Ce domaine met aussi en avant son parcellaire. Valdemoras est situé dans la vallée, proche du Duero, avec des sols plus riches en sable et en argile que la cuvée de Félix Callejo. Les vignes de cette cuvée sont plantées jusqu'à 790 mètres d'altitude. Cette cuvée est un 100% Tempranillo issu de très vieilles vignes de plus de 90 ans. Ce vin est élevé 18 mois en barrique de chêne française neuve et d'un passage, puis 3 mois en cuve béton. Les deux vins ont une grande complexité aromatique. La grande différence entre ces deux cuvées, ça sera la texture en bouche, et notamment dans la perception des tanins. La première cuvée, sur des sols très calcaires, exprimera une certaine finesse en bouche, avec des tanins plutôt élégants et purs. La deuxième, sur un sol de sable et d'argile, aura un peu plus de mâche en bouche, avec des tanins aussi élégants que le premier, mais beaucoup plus présents et beaucoup plus installés en milieu de bouche. Et voilà, c'est avec cette dégustation que notre exploration du terroir de la Ribera del Duero touche à sa fin. J'espère que nous avons réussi à déconstruire ensemble l'idée reçue d'un vignoble en plaine, au climat facile. La réalité, vous avez vu, est bien plus riche et complexe. Nous avons voyagé à travers donc la topographie singulière de cette région en altitude, façonnée par des millions d'années d'histoire géologique. Nous avons découvert la diversité de ces sols, calcaire, argile, sable, et comment chacun apporte une nuance unique au vin. Et bien sûr, nous avons compris l'impact majeur de son climat continental avec ses extrêmes et le rôle capital de l'effet millésime. Tous ces éléments combinés forgent le caractère inimitable des vins de la Ribera del Duero. Ils expliquent la puissance, l'élégance et leur capacité à nous surprendre d'une bouteille à l'autre. Mais alors, une question me turlupine. Comment le Tempranillo a réussi à s'adapter à tous ces contrastes? Et quels sont les autres cépages qui cohabitent avec ce roi de la Ribera del Duero? Eh bien, ce sont à ces questions que je vais tenter de répondre dans le prochain chapitre de mon carnet de voyage au cœur de la Ribera del Duero. Écriture et voix, Yana Delière. Montage et musique originale, Respiro.media. Cette série a été réalisée en partenariat avec le Cancero Regulator de la Ribera del Duero. Un immense merci à l'équipe pour leur accueil dans la région.